Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radiodiffusion iranienne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 Esfand, 1401 du calendrier iranien, 2 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Europe ne doit pas devenir le repère des terroristes anti-iraniens, a déclaré le président iranien. L'Europe ne doit pas devenir le repère des terroristes anti-iraniens, a déclaré le président Raïsi. L'enrichissement de l'uranium à 84%, l'Iran rejette les fausses allégations. Et un Palestinien a été tué par les forces d'occupation israéliennes lors d'un raid en Cisjordanie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raïsi met en garde les pays européens contre l'utilisation de leur territoire comme rampe de lancement de complots visant la République islamique d'Iran. Les territoires des pays européens ne doivent pas servir de source de complots et de menaces contre les intérêts de la nation iranienne, a déclaré le président Raïsi lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre belge. Téhéran est déterminé à préserver et à renforcer les relations favorables et constructives avec le reste du monde, y compris l'Europe, a-t-il ajouté. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a rejeté les accusations selon lesquelles Téhéran aurait enrichi de l'uranium à 84%, affirmant qu'il n'y a eu aucune déviation dans les activités nucléaires pacifiques de l'Iran. Mohammad Eslami a fait ses remarques après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a prétendu dans un rapport trimestriel datant du 22 janvier avoir détecté des particules d'uranium enrichies à près de 84% lors d'une inspection des installations nucléaires de Fordow en Iran. En ce qui concerne la particule de 84%, il s'agissait d'un prélèvement provenant de la paroi d'un robinet dans le processus invisible au microscope. Ce qui est important, c'est la quantité de matière qui est stockée après la production, a-t-il expliqué. Notre chaîne de production est à 60%. Les inspecteurs ont également mentionné dans leur rapport que notre production est de 60%, a poursuivi le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. L'armée américaine a alloué des fonds aux opérations secrètes d'urgence liées à un plan de guerre contre l'Iran, selon un nouveau rapport citant des documents classifiés du Pentagone. Le rapport publié par The Intercept indique que le plan a été révélé suite à l'examen d'un manuel budgétaire classifié du Pentagone, répertoriant les programmes d'urgence et spéciaux. Le major John Moore, porte-parole du commandement central américain, a déclaré « Par principe, nous ne commentons pas les plans numérotés. L'Iran reste la principale source d'instabilité dans la région et constitue une menace pour les États-Unis et ses partenaires. Nous surveillons en permanence les flux de menaces en coordination avec nos partenaires régionaux et n'hésiterons pas à défendre des intérêts nationaux des États-Unis dans la région. » Un jeune Palestinien a succombé à ses blessures subies lors d'un raid israélien sur la ville occupée d'Arira, en Cisjordanie. Selon le ministère palestinien de la Santé, Mahmoud Jamal Hamdan, 22 ans, a été grièvement blessé lors d'une attaque israélienne contre un camp de réfugiés. Des témoins ont déclaré que Hamdan était soigné par des médecins palestiniens, mais les soldats israéliens ont interrompu le traitement et l'ont emmené dans un jeep militaire. Plusieurs autres Palestiniens ont également été arrêtés lors du raid qui a eu lieu lundi soir. Mahmoud Jamal Hassan Hamdan, âgé de 22 ans, est mort des suites de blessures infligées par les balles de soldats sionistes lors d'un assaut contre le camp de réfugiés palestiniens à Arira, indique le ministère dans un communiqué. Dimanche soir, la ville palestinienne de Houara, dans le nord de la Cisjordanie, a été attaquée par des colons. Des centaines de colons sionistes sont entrés à Houara, où ils ont jeté des pierres vers les maisons palestiniennes, incendié des bâtiments, des poubelles et des voitures. Le Burkina Faso a officiellement renoncé à un accord d'assistance militaire avec Paris et a donné à la France 30 jours pour retirer tout le personnel militaire du pays de l'Afrique de l'Ouest. Les autorités françaises auraient reçu mercredi 1er mars la mise en demeure de la décision prise par le gouvernement burkinabé. Une lettre du ministère burkinabé des Affaires étrangères, datée de mardi, informait la France que le Burkina Faso renonçait à l'accord d'assistance militaire technique conclu à Paris le 24 avril 1961, selon l'agence France-Presse. Le traité a été conclu quelques mois seulement après que l'ancienne colonie de Haute-Volta a obtenu son indépendance de la France pour se nommer plus tard Burkina Faso. C'était la base légale de l'intervention militaire française dans ce pays contre les terroristes qui courent le Sahel depuis le changement de régime en Libye, soutenu par l'OTAN en 2011. La décision du gouvernement burkinabé intervient quelques jours seulement après que la France a retiré son drapeau dans sa base militaire près de la capitale du Burkina Faso et a renvoyé quelques 400 soldats qui avaient été déployés dans cette base. Par ailleurs, l'ambassadeur de France a été rappelé à Paris pour des consultations à la mi-janvier après que le Burkina Faso a exigé son départ. Le premier ministre burkinabé souhaite que la Russie soit un allié de son pays dans la lutte contre le terrorisme. Cela ferait du Burkina Faso la troisième ancienne colonie française en Afrique à montrer la porte à la France et à se tourner vers Moscou après le Mali et la République centrafricaine. Le président français Emmanuel Macron a cherché à décrire le processus comme une réorganisation et pas un retrait du continent. La France cherche à avoir une empreinte réduite en faveur d'une plus grande présence de ses partenaires africains, a-t-il déclaré à l'Élysée avant un voyage en Afrique. L'Europe ne doit pas devenir le repère des terroristes anti-iraniens. Le président iranien Ebrahim Raisi met en garde les pays européens contre l'utilisation de leur territoire comme rampe de lancement pour des complots visant la République islamique d'Iran. Le territoire des pays européens ne doit pas devenir source de complots et de menaces contre les intérêts de la nation iranienne, a déclaré mercredi 1er mars le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une conversation téléphonique avec le premier ministre belge Alexander Dercro. L'Iran est enclin à préserver et à renforcer les relations favorables et constructives avec le reste du monde, y compris l'Europe, a déclaré le président Raisi. Il a cependant averti les gouvernements étrangers, y compris les Européens, d'éviter de tomber sous l'influence de fausses informations propagées par les courants anti-iraniens. Si un gouvernement choisit la voie de la confrontation sous l'influence d'informations fausses et trompeuses, diffusés par des courants terroristes et mercenaires, il sera perdant, a déclaré le président de la République islamique d'Iran. Le président Ebrahim Raisi faisait référence aux campagnes anti-iraniennes et à la propagation des désinformations depuis des décennies par des groupes terroristes tels que l'organisation des Mujahedin e Khalq, OMK. L'Union européenne a retiré le nom de l'OMK de sa liste d'organisations terroristes et permet à ses responsables et membres de se déplacer librement à travers le continent et d'y organiser de nombreuses réunions anti-iraniennes. C'est alors que les actes de terreur du groupe terroriste ont abouti à la mort de milliers d'Iraniens depuis la victoire de la révolution islamique en 1979. Le président Raisi s'est également dit préoccupé par le soutien apporté par certains pays européens aux actes islamophobes. Plusieurs pays européens sont accusés d'avoir favorisé l'islamophobie parrainée par l'État en contribuant à la suppression systématique de leur communauté musulmane et en tolérant des insultes sacrilèges contre la religion abrahamique. La République islamique d'Iran est déterminée à résoudre ces problèmes avec les autres en recourant à une approche coopérative, à condition que les autres parties optent également pour une telle approche, a déclaré le président Ebrahim Raisi. La partie belge, pour sa part, a mis l'accent sur le développement important des relations entre l'Iran et la Belgique, compte tenu de leur histoire de relations diplomatiques vieille de 130 ans. La Belgique choisit toujours la voie du dialogue vers le renforcement de ses relations avec la République islamique d'Iran et elle est déterminée à résoudre divers problèmes par le recours à une approche basée sur l'entente et la coopération, a conclu le Premier ministre belge.
Bonjour à tous, bienvenue ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour est la Palestine, la situation catastrophique depuis 2023. Il semble que 2023 soit aussi cruel que 2022. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord donc le reportage que nous avons préparé pour notre débat et par la suite nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
Des colons israéliens ont tué un Palestinien près de la ville cisjordanienne de Naplouse, au milieu des tensions accrues dans les territoires occupés. Sameh Aktash, 37 ans, a été tué après avoir abattu d'une balle réelle lors d'un assaut par des colons et des forces israéliennes au sud de Naplouse. Environ 400 Palestiniens ont également été blessés après que les troupes et les colons ont attaqué des parties de la ville. Ils ont bloqué les rues, jeté des pierres et incendié plusieurs maisons et véhicules palestiniens. Leur aide faisait suite aux morts de deux Israéliens dans une colonie de Cisjordanie plus tôt dans la journée. Le régime a intensifié sa répression meurtrière contre les Palestiniens dans les territoires occupés depuis la formation d'un cabinet d'extrême droite sous le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Jusqu'à présent, 66 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie cette année. Ces derniers mois, la Cisjordanie occupée depuis 1967 par le régime sioniste, où vivent près de 3 millions de Palestiniens et près de 500 000 colons israéliens, a été régulièrement le théâtre de raids de l'armée israélienne ou d'affrontements avec des Palestiniens. Les forces armées israéliennes ont tué 150 Palestiniens en 2022, ce qui fait de cette année la plus meurtrière depuis la seconde intifada de 2005. La situation explosive en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza sous blocus risque encore de se détériorer. Les Palestiniens dénoncent l'inaction de la communauté internationale face aux crimes perpétrés par les occupants israéliens. On assiste à d'innombrables exécutions sommaires commises en toute tranquillité dans les rues et dans divers coins de la région sous forme et sous prétexte d'assaut.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Nous allons faire venir donc tout d'abord nos invités, Madame Midani, notre expert en questions géopolitiques, notamment concernant le Moyen-Orient. Bonjour Madame Midani, toujours un plaisir de vous avoir en tant qu'experte.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe et à M. Cornu aussi. Votre invité.
Merci. Donc notre deuxième invité, vous l'aurez compris, et entend M. Bernard Cornu. Bonjour M. Cornu, ravi de vous avoir également aujourd'hui pour l'expertise concernant la situation palestinienne.
Bonjour à vous toutes et tous.
Alors vous l'aurez compris, Mme Midani, c'est la troisième fois en une semaine, 7 jours. Trois fois une réunion sur la Palestine. Cette semaine a été extrêmement difficile pour les Palestiniens. Le reportage ne parle pas de tout ce qui s'est passé durant ces 7 jours, mais il y en a eu des choses. Est-ce que vous voulez vous-même vous faire un résumé de ces 7 jours? Je parle également notamment de ce qui s'est passé dans les prisons palestiniennes, la décision de changer la loi, de ne plus apporter d'aide sanitaire, donc d'aide médicale aux prisonniers palestiniens qui sont souvent pour 90% du temps, pas jugés, ne savent pas donc quand ils vont sortir. Est-ce que vous voulez revenir donc sur ces 7 jours en Palestine?
En fait, les agressions et les escalades du pouvoir fasciste de Netanyahou se multiplient contre la population palestinienne depuis qu'elle est au pouvoir, ce gouvernement. Il n'arrête pas d'attaquer. Alors, on a vu déjà un premier massacre à Jénine, un deuxième massacre à Naplouse, un troisième massacre à Ariha, et là, dernièrement aussi, un massacre à Hawara, ajouté à des agressions systématiques au niveau de Jérusalem, au niveau de tous les quartiers. C'est des massacres qui s'accompagnent de destruction de domiciles, des arrestations des militants et destruction de leurs maisons. Donc, en fait, une agression généralisée contre le peuple palestinien, aussi bien par l'armée israélienne que par les colons qui ont été armés par ordre de Netanyahou aussi, et pour lesquels il y a un discours d'agressivité et de qui les pousse en fait à tuer tout Palestinien. Donc c'est pour les Israéliens, pour ces colons, tout Palestinien mort est un bon Palestinien. Donc ils se déchaînent contre les Palestiniens, les civils, etc. Je voudrais rappeler un peu cet épisode, le dernier de Hawara, où les colons ont attaqué la ville, le village de Hawara, qui est dans Al-Quds, en fait, dans la banlieue de Jérusalem, et qu'ils ont brûlé les maisons. Ils ont complètement brûlé leurs maisons. Sans savoir si les gens sont à l'intérieur, à l'extérieur, une attaque en bonne, et en plus ajoutée à l'encerclement de la ville par l'armée, qui a fermé aussi toutes les sorties, toutes les issues de la ville. Donc un vrai massacre qui se fait.
Excusez-moi, Madame Midani. Il faut le rappeler. Donc 90 blessés pour cette seule nuit. Comme vous l'avez indiqué, la description, ça a été incendié alors que les gens étaient à l'intérieur de leur maison en plein milieu de la nuit. Donc ils dormaient très certainement. Donc pas dans la capacité de se défendre, de voir ce qui se passait à l'extérieur de chez eux.
Tout à fait.
On rappelle également que le lendemain ou le surlendemain, enfin dans la semaine, dans les 7 jours, des Israéliens extrémistes sont venus donc célébrer ce qui s'est passé dans cette partie-là de la Palestine. Donc ça, c'est un peu la situation des 7 jours. On rappelle seulement en 7 jours, on rappelle un mort, 90 blessés et une importante partie complètement brûlée. Les Palestiniens ne peuvent pas retourner chez eux parce qu'ils ont leurs biens ont été détruits. Monsieur Bernard Cornu, en France, il y a eu quelques émissions, on a entendu un peu les Israéliens, enfin en tout cas les Juifs présents en Europe et ne sont pas en contradiction avec l'entité sioniste, indiquant que l'État sioniste ne pouvait plus se présenter comme étant démocratique. Est-ce que vous avez suivi ces émissions? C'est le seul... Seule fois, on a vraiment entendu parler finalement de ce qui s'est passé en Palestine durant ces 7 jours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ces réactions un peu toutes petites par rapport à ce qui se passe en Palestine tous les jours?
Mais c'est vrai qu'il y a en France, en Europe et aussi aux États-Unis, y compris de la part de communautés juives éduquées, d'avocats, juristes, il y a des protestations contre l'évolution du gouvernement israélien dominé par des extrémistes. Des gens d'extrême droite qui forcent le gouvernement Netanyahou, qui lui est de droite, et on ne peut pas le féliciter d'avoir pris des gens de l'extrême droite. Donc ces gens en France protestent contre ce qui se passe désormais depuis 2 mois en Palestine occupée, contre les Palestiniens, des massacres répétés, des vengeances à l'initiative de colons qui sont armés, comme l'a bien dit, comme on l'a bien répété, et l'armée a de la peine ou même ne veut pas intervenir. Alors il y a quelques déclarations parfois de certaines autorités politiques. Maintenant le pouvoir israélien organise sur les territoires dont il a pris l'occupation, et cela amène l'oppression, la répression, l'expulsion, et il manifeste contre la résistance, ce qu'à son tour il qualifie de terrorisme. On voit exactement ce qu'a dit le général de Gaulle, président de la République française en 1967, se continue depuis maintenant des années, des décennies. On a une occupation, on a donc une résistance, qui est qualifié de terrorisme alors que c'est une résistance qui était comme la résistance en France contre le pouvoir allemand, contre l'occupation de territoire français. Et donc on a des répressions terribles. Et il faut aussi rappeler qu'il y a quelques jours, le secrétaire général des Nations Unies a répété que l'occupation était et que l'expansion des colonies était illégale. Ça n'a pas été redit très souvent, mais il a eu le courage de le dire. Il faudrait beaucoup plus qu'on le dise. Dans nos médias français, quelquefois les journalistes disent Cisjordanie occupée, quelquefois ils oublient de le mentionner. Et donc en fait, c'est cette rappel de qu'on a une situation d'occupation, une situation de résistance, et que le droit international doit s'appliquer. Comme l'ancien président français Chirac l'a dit, on doit utiliser pour mettre fin à cette occupation toutes les ressources du droit international, c'est-à-dire des résolutions chapitre 7 de menaces de recours à la force pour rétablir la paix et donc obtenir l'évacuation par l'armée israélienne de tous les territoires occupés en 67 pour revenir à ce qu'on appelle la ligne verte, ce qui a été accepté en fait lors du sommet arabe de 1988.
Merci, Monsieur Bernard Cornu. Madame Midani, il y a eu un sommet entre différents partis après cette attaque meurtrière, notamment avec l'entité sioniste, également les autorités palestiniennes. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce sommet que la résistance a complètement refusé, indiquant que c'est pas par là que peut s'apporter la paix, c'est ne pas vers ce genre de sommet que la solution peut se trouver. Madame Midani. Donc, Madame Midani, je crois que nous l'avons perdu. Monsieur Cornu, est-ce que vous avez suivi ce sommet donc, qu'il y a eu sans la résistance? Certains disent que c'est même pour boucler et pour paralyser la résistance, notamment la résistance à Gaza, la résistance à l'extérieur de Gaza, en Cisjordanie. Est-ce que vous avez entendu parler de ce sommet? Est-ce que vous avez suivi donc, ce sommet qui s'est fait finalement sans la résistance palestinienne, sans les Palestiniens, j'ai envie de dire?
Vous parlez de la réunion à Aqaba.
Exactement.
Dimanche.
Oui, oui, oui.
Voilà, à l'initiative de l'ambassadeur américain, dont des Nations Unies, ça a réuni l'autorité palestinienne dans son fief de Ramallah avec des délégués et bien sûr aussi des services palestiniens, israéliens mandatés par le Premier ministre Netanyahou. Il était question de voir comment limiter la violence. Selon le communiqué américain, il y a eu un accord des deux parties, l'autorité palestinienne et les services israéliens, l'armée israélienne, d'éviter de recourir à la violence, de ne pas remultiplier encore les actions répressives, violentes et meurtrières en Cisjordanie occupée. Très tôt, dès lundi, je crois, le Premier ministre Netanyahou a démenti certains aspects, notamment l'aspect du gel des nouvelles colonies et le gel des autorisations des avant-postes de colonies qui sont très souvent autorisés pour en fait créer des faits accomplis dans ces territoires occupés.
D'accord. Et certains parlent de la présence de l'autorité palestinienne comme une trahison à la résistance. Est-ce que c'est encore une dissension au sein des Palestiniens? Certains disent que les Palestiniens sont fatigués, d'autres disent non, ils vont le résister. Est-ce que c'est un peu le fait que l'autorité palestinienne s'est présentée lors de ce sommet montre en fait une dissonance entre les Palestiniens résistants et les autres Palestiniens?
Tout à fait. Comme on sait, il y a depuis très longtemps, il n'y a pas eu d'élection démocratique en Palestine, alors qu'ils en sont capables, ils l'ont prouvé. Donc on a une dissension entre l'autorité palestinienne qui exerce son pouvoir, surtout sur la Cisjordanie occupée, et collabore avec l'autorité occupante, parce qu'elle n'a vraiment pas le choix, malheureusement, dans les situations actuelles, et les autorités de Gaza, contrôlées essentiellement par le Hamas, soutenues par d'autres pays à l'extérieur, qui n'arrivent difficilement à collaborer, même s'il y a eu des essais par l'Égypte, par d'autres parties, d'essayer de recoller les morceaux entre les différentes parties palestiniennes sous occupation. Donc le Hamas n'a pas participé à cette réunion et n'est pas d'accord pour prolonger l'accord de coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne de Ramallah et les services et l'armée israélienne.
Est-ce que ça donc, s'explique? Est-ce que ça s'explique parce que
aussi que la population, selon les sondages, la population palestinienne soutient fortement, en grande majorité, la résistance, y compris les actions armées lorsqu'il y a des abus flagrants des colons ou de l'armée israélienne.
Merci, Monsieur Cornu. Est-ce que ça s'explique aussi parce qu'on rappelle encore 2022 a été l'une des années les plus meurtrières depuis longtemps. 2023 commence extrêmement mal puisque il y a énormément d'incidents en moins de trois mois qui ont été faits. Est-ce que cette façon de la résistance de gérer les choses, c'est aussi parce que ils sont à bout est-ce qu'on peut penser que ça va exploser parce que vraiment là ça va sous pression ce qui s'est passé cette là où des gens, des familles y vivaient, la destruction de biens, la destruction de vie également, ça devient de plus en plus important. La résistance, elle ne dit rien, mais elle se prépare. Est-ce que vous attendez une explosion en fait? Déjà que l'entité israélienne a un problème géopolitique à l'intérieur même de ses départements étatiques, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la Palestine dans les jours, voire dans les semaines qui arrivent?
Les tensions qu'il y a dans les communautés juives en France et aux États-Unis, qui s'opposent à ce gouvernement extrémiste à nouveau dominé par Netanyahou, alors que lui-même est sous l'emprise d'une action légale pour des faits de corruption. Et justement, ce qui est dénoncé par les démocrates juifs aux États-Unis notamment, et certains en France aussi ou en Europe, c'est que le pouvoir Netanyahou essaye de mettre la Cour suprême, c'est-à-dire l'autorité juridique ultime, sous le contrôle du gouvernement ou de l'Assemblée, enfin de l'Assemblée, donc dominée actuellement par la coalition dirigée ou formée par Netanyahou. Donc cette action juridique, cette tentative juridique que le gouvernement Netanyahou veut essayer d'impliquer avant la fin de la session parlementaire actuelle, au moment des fêtes de Pâques, mettrait le pouvoir judiciaire sous le contrôle du pouvoir politique, ce qui est un déni de démocratie, puisqu'il est important que le pouvoir juridique soit toujours séparé du pouvoir politique et du pouvoir législatif.
Merci, Monsieur Cornu. On a récupéré Madame Midani. Alors, Madame Midani, on avait parlé donc du sommet qui a eu dimanche avec l'autorité palestinienne, l'entité sioniste, les Égyptiens et les Américains. C'est pour venir un peu sur les chauds propos.
Ah, là-bas.
Voilà, exactement. Et là, j'ai envie de parler donc de ce qui s'est passé dans les prisons où on leur a supprimé la possibilité, on a dit qu'on allait leur supprimer la possibilité d'avoir recours à une aide médicale, surtout pour ceux qui sont malades, les maladies chroniques, mais pas seulement, des cancers. Les prisonniers ont indiqué qu'en fait, ils allaient commencer et débuter une grève. Et cette grève, même si elle aboutirait à leur mort, c'est tout ou rien, en fait. On est en train de voir avec Monsieur Cornu, le fait que c'est vraiment explosif à l'actuelle en Palestine, les Palestiniens ont connu l'année 2022 extrêmement difficile, extrêmement cruelle, extrêmement injuste, que 2023 commence extrêmement mal également. Est-ce qu'on s'attend à une explosion de la Palestine, notamment par le biais des prisonniers? On a déjà vu les choses commencer par le biais des prisonniers en Palestine, une intifada. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Midani? Et ce sera certainement nos mots de conclusion.
En fait, l'agression des Israéliens contre les prisonniers, les détenus, en fait, je ne peux pas appeler près des prisonniers parce que ce sont des détenus qui ont la seule culpabilité, je veux dire, ou le seul crime, c'est de défendre leur pays et de défendre de résister à l'occupant. Donc, en fait, ce sont des détentions sans aucune raison, déjà. Et en fait, contre la légitimité d'autodéfense, d'une part. D'autre part, alors, le fait, il trouve que les détenus sont une proie facile à toute une répression de l'armée israélienne qui attaque les prisonniers, qui les tabasse systématiquement, y compris les femmes d'ailleurs et les enfants. Il les prive de tout. Et ce qui, bien sûr, fait que les détenus résistent. Alors, soit par des mouvements de grève de la faim, soit aussi par des mouvements de résistance civile. Alors, en représailles, les Israéliens, l'armée israélienne, les prive d'alimentation, les prive de médicaments. Et aussi, récemment, ils ont décrété et ils ont fait voter ça au Knesset, hein, de les priver de nationalité et de séjour. En fait, donc, il y a un travail de plus que fasciste, je dirais, qu'on n'ait jamais vu dans le monde, de représailles contre les détenus, ce qui est tout à fait contraire au minimum des droits de l'homme, à la Charte des Nations Unies et pour les droits des occupés sous un occupant et pour les droits des peuples à vivre, en fait, et à le droit à la résistance. En fait, tout ceci est violé systématiquement par Israël face aux détenus. Mais sans parler aussi de toutes les violences contre le peuple palestinien, même en dehors des prisons aussi, et cette agressivité et agression systématique, et les destructions des maisons, je continue à rappeler, même les détenus libérés ou les détenus qui sont encore en prison, on va détruire leurs maisons, ils vont détruire leurs maisons sur la tête de leur famille, ou en laissant leur famille à l'extérieur comme ça, sans aucun domicile. Donc, en fait, c'est une agression systématique, fasciste, contre le peuple palestinien, qui résiste par toutes ses forces et qui est aussi, objet de toutes les manigances politiques du style de cette réunion à Aqaba, qui veut, en fait, apaiser le mouvement, mais apaiser pour l'État israélien et occupant. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, Yediot Ahronot, qui est un journal israélien, qui dit que l'État d'Israël est encerclé, il est dans un guet-apens, parce qu'ils ne peuvent plus se défendre et parce que l'autorité palestinienne n'a plus pouvoir sur les Palestiniens. Et fort heureusement, donc maintenant, la base palestinienne, le peuple palestinien, n'entend plus l'autorité palestinienne qui voulait apaiser et qui est de mèche aussi et qui fait de la coordination sécuritaire avec l'armée israélienne. Bon, maintenant, elle n'a plus pouvoir et elle n'a qu'à se plier à la volonté du peuple palestinien pour aller dans le sens de cette révolution.
Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons conclure notre débat, donc l'émission que nous avons à l'heure actuelle. Nous remercions donc nos deux experts, M. Bernard Cornu, écrivain et expert géopolitique, et Mme Midani, également expert géopolitique, notamment au Moyen-Orient et en sa propre chaîne également YouTube. Je vous remercie, nos chers experts, de participer à nos débats et de donner votre point de vue sur les sujets. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. Je vous dis donc à un prochain jour pour un autre sujet du débat, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran, dans les locaux de Presse TV. Au revoir.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans notre premier programme, nous avons terminé la lecture et l'exégèse des versets de la sourate 42 du Noble Coran, la sainte sourate Al-Shura, la consultation. À partir de ce programme, nous commençons la lecture et l'exégèse des versets du chapitre 43 du Noble Coran, la sainte sourate Al-Zukhruf, l'ornement. La sourate 43 compte 89 versets. La sainte sourate Al-Zukhruf fut révélée au noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, à la Mecque, avant l'Hégire. Bien que le titre ne fasse pas directement partie du texte coranique, la tradition musulmane a donné comme nom à cette sourate Al-Zukhruf, l'ornement, et cela en référence au contenu des versets 33 à 35 de cette sourate. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, de toits d'argent, avec des escaliers pour y monter. Nous aurions pourvu leurs maisons de portes et de divans où il accoudrait, ainsi que les ornements. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux. Comme la plupart des sourates mécoises, la sainte sourate Al-Zukhruf porte sur les piliers de la croyance musulmane, comme l'unicité de Dieu, la résurrection et la prophétie. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 1 à 10 du chapitre 43 du Noble Coran, la sainte sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 1 à 4 de la sainte sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Puis nous vous en donnerons la traduction.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Amin. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'originelle du ciel, sublime et rempli de sagesse. À l'instar de 28 autres sourates du Noble Coran, la sainte sourate Al-Zukhruf commence par des lettres de l'alphabet arabe. Selon les exégètes du Noble Coran, ces lettres de l'alphabet à la tête des sourates coraniques, sont des codes secrets. Et dans la plupart des cas, ces lettres sont suivies par le nom du Coran ou une allusion directe au livre céleste et à sa révélation au noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les commentateurs du Livre Saint estiment souvent que ces lettres de l'alphabet sont des codes secrets qui font allusion au fait que le Saint-Coran est le miracle le plus somptueux et le plus parfait que le vénéré prophète de l'islam apporta aux humains grâce à la volonté du Seigneur. D'autant plus que la répétition des lettres de l'alphabet arabe à la tête de plusieurs sourates coraniques est également un défi lancé à l'adresse de ceux qui nient le caractère miraculeux du Coran pour qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais capables de faire un livre semblable au Coran, qui est la parole du Seigneur révélée à son plus noble messager. Bien que le Coran soit révélé au prophète en langue arabe, le message divin n'appartient pas uniquement à une nation spécifique, et il s'adresse à l'humanité tout entière. Le Coran original est conservé au ciel, et il contient toute la vérité au-delà de la compréhension de l'homme. Voici maintenant les versets 5 à 8 de la sainte sourate Al-Zukhruf.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
Quoi allons-nous vous dispenser du rappel, le Coran, pour la raison que vous êtes des gens outranciers? Que de prophètes avons-nous envoyé aux anciens? Et pas un prophète ne leur venait qui ne le tournait en dérision. Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux. Et on a déjà cité l'exemple des anciens. L'une des traditions divines consistait à envoyer des messagers pour guider les humains. Cependant, la plupart des gens auxquels ces messagers ont été envoyés se détournaient d'eux et ne croyaient pas en leur message. Ils se raillaient des messagers et avaient même parfois tué les prophètes. Parmi ces malfaiteurs, certains peuples ont été frappés par le châtiment divin et ont été anéantis. Cela nous apprend que le châtiment des pécheurs et des criminels n'est pas toujours retardé jusqu'à la résurrection et que la colère divine pourrait les frapper ici même sur la terre. Écoutons enfin les versets 9 et 10 de la sourate 43 du noble Coran.
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient, c'est lui qui les a créés. Celui qui vous a donné la terre pour berceau et vous y a tracé des sentiers afin que vous vous guidiez. Le Coran souligne que même ceux qui s'opposaient à la mission prophétique des messagers de Dieu savaient dans leur cœur et par leur nature innée que Dieu est l'unique créateur du monde. La mission des messagers de Dieu a été essentiellement d'éveiller cette nature innée des humains et de les rappeler qu'ils ne devraient pas oublier le Créateur qui leur a gratifié de ses bienfaits et leur a donné la vie leur permettant de rechercher le chemin de la lumière qui les guide vers leur salut éternel dans l'au-delà. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you.